déjà, c'est moi qui vais poser une question dans l'autre sens. Est-ce que déjà vous avez trouvé le livre blanc pas trop saoulant et que ça correspondait quand même aux besoins liés au guide de survie Internet? Merci l'ours. Et merci Mathieu. Et c'est ça, Brassens, je suis tout à fait d'accord. C'est que j'ai vraiment voulu le faire pour les néophytes, hein, et justement permettre à tous ceux qui sont, on va dire, forcément avec un stade avancé, ben, de pouvoir justement après continuer. C'est-à-dire vraiment, l'idée c'était de voir ce livre blanc vraiment comme un socle qui permet après de venir reconnecter ben, d'autres infos et voilà, d'autres livres blancs sur les réseaux sociaux. Sur le fait de pouvoir se connecter chez pas se connecter, de pouvoir administrer chez soi son serveur de messagerie, son accès données, etc. Enfin, que sais-je, il y a pléthore de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu cliques sur un lien malveillant? Alors, ben, il y a soit ça te ça soit ça par exemple ça te va te permettre d'aller sur un site et il te propose par exemple de télécharger une pièce jointe. Donc c'est là où soit malheureusement tu es trop curieux et tu vas te dire mince, je vais l'ouvrir en plus. Donc là, c'est du moment que tu ouvres ta pièce jointe, que tu ouvres le lien, l'exe ou que sais-je, quel est le type de, on va dire, de fichier. Bon, forcément, si c'est un exe, un MSI, je parle quand on est sous Windows, forcément. C'est un truc que je n'avais pas précisé tout à l'heure. Forcément, là, du coup, tu vas te faire pourrir immédiatement. Mais malheureusement, il y a aussi les liens qui sont, c'est pour ça que, qui sont justement le simple fait de cliquer, par exemple, sur un lien, je sais pas, par exemple, une URL, va te contaminer. C'est justement en utilisant les défauts liés à JavaScript au travers du navigateur. D'où l'intérêt en fait d'avoir quelque chose comme NoScript, qui est l'extension de par exemple que tu retrouves sur n'importe quel navigateur, Google, Chrome, Firefox et Co, et qui va bloquer, on va dire, toutes ces, on va dire, ces interactions avec le système. Donc ça, c'est malheureusement, t'as bien sûr l'antivirus, comme je disais, quand il est à jour et que suivant en fait comment il gère, parce que tous les antivirus ne se valent pas et n'ont pas les mêmes fonctionnalités, il peut détecter en effet l'attaque, mais il y en a certains qui vont pas la détecter. Donc c'est toujours un peu au petit bonheur la chance. Voilà, comme disait Dioju, NoScript ou Matrix, voilà, c'est ça exactement que je conseille à avoir sur chaque navigateur. C'est très très important. Et en plus, ça bouffe pas les ressources, quoi. Brassens, je repose la question du coup. Avoir un VPN d'accord, mais lequel choisir? Car il y a tout et n'importe quoi là-dedans. Ou alors, pour cette question, oui, je te confirme, c'est vrai qu'il y a en effet beaucoup de types de VPN. Alors, par exemple, le but, c'est pas de faire de la pub, mais tu as par exemple de tête Proton VPN qui fait très bien le boulot. Qui va te permettre d'avoir forcément un nombre de serveurs limité. C'est en fait ce qui fait la richesse d'un VPN, c'est que tu puisses te connecter sur plein plein d'endroits différents et de façon entre guillemets le plus sécure. Donc Proton par exemple avec la version gratuite va te permettre de tête d'avoir je crois 3 ou 4 serveurs VPN sur lesquels tu peux te connecter. Mais c'est déjà suffisant pour au moins pour l'aspect commercial de la chose, pour empêcher les sites classiques on va dire, de te pister. C'est pas mal. Donc oui, en effet, il y a tout et n'importe quoi et je te rejoins parce qu'il y a en effet beaucoup de pubs là-dessus. Donc après, tu as les payants qui la pub avec NordVPN et compagnie, qui sont raisonnables au niveau des coûts. C'est pas ultime, mais bon, ça fait le boulot et forcément, du coup, quand c'est payant, ben, tu as forcément plus d'options et plus de choix. Voilà. Et puis j'avais pas fait gaffe, le fameux NordVPN. Et pas si sécurisé que ça, apparemment. Pour être un minimum de sécurité, alors, nanana, VPN. Ben, c'est toujours pareil. Il faut pas considérer le VPN comme la panacée. Le must, en fait, c'est quand c'est toi qui peux te le créer. C'est toi qui gères ton infra et donc, du coup, qui va te le faire directement sur Internet. Maintenant, toujours pareil, il faut avoir le savoir-faire technique, il faut avoir un peu les ressources, hein, et pour un moindre mal, moi j'allais dire, voilà, même si c'est pas le top, en effet, parce qu'aujourd'hui, c'est forcément les VPN sont de plus en plus une cible de choix pour les, on va dire en tout cas les serveurs, pour les cyber malveillants. Bon. En attendant, ça reste quand même, comme je le montrais tout à l'heure, le petit schéma, ça te permet quand même de, à minima, de, on va dire, d'épargner les dégâts. À discuter avec là, toujours pareil, avec la communauté. Je ne sais pas s'il n'y a pas Codeur ce soir. Non, il n'est pas là. Ou peut-être avec Zilot ou avec ceux qui, on va dire, les gardiens du temple, avoir un peu leur avis là-dessus. Mais bon, moi je pense que voilà, c'est comme tu dis, d'avoir un VPN et de faire voilà, bien gaffe avec la navigation privée, vider le cache, etc. C'est des très bonnes bases, quoi. Oui, Zilot, gardien du temple. pour qui passe un simple copier-coller du dossier sur une clé est-il sécurisé? Quand tu dis que c'est sur une clé, tu veux dire sur une clé USB ou sur quoi? Quand tu dis quick. Ah, tu veux dire copier du coup le. D'accord, copier ton key pass sur une clé USB. Alors, par défaut, oui, parce que t'as. Enfin, oui, parce que ton key pass est sécurisé avec sa clé justement d'une longueur, on va dire, suffisante, mais ça vaut le coup sur la clé USB, à mon avis, comme c'est sensible, de proposer justement un petit outil de chiffrement, comme par exemple, attendez, j'ai un trou de mémoire, c'est comme Cryptomator, qui est open source, et qui est un outil qui va vous permettre en fait de chiffrer dans un petit container des données sensibles et de façon très très simple. Alors c'est pareil, c'est toujours pareil, vous avez une clé pour le Cryptomator qui va vous permettre derrière de venir stocker vos données de façon sécure sur n'importe quel support, ou même sur le web. Et bien sûr, vous aurez après besoin d'un deuxième mot de passe aussi sécurisé pour entrer dans le KeePass. Et avec ça, globalement, tu es quand même assez tranquille. Toujours pareil, il n'y a jamais de sécurité, on va dire, absolument non faillible, mais ça a déjà un bon niveau de sécurité. Que Mathieu, ok, mais les failles s'arrêtent au niveau du navigateur, genre les cookies. Tu pourrais un peu me dire un petit peu plus sur ta question, je la capte pas de suite. Tu veux dire que ça arrête. C'est ton système, quoi qu'il arrive. Oui, si on parle juste des cookies en eux-mêmes, c'est vraiment au niveau du navigateur qui. C'est pour ça que purger le navigateur, on va les éradiquer, ça va faire du ménage là-dessus et que c'est fortement conseillé de le faire régulièrement. Mais les failles après en elles-mêmes, elles vont au-delà du navigateur, justement. C'est ça. Alors il y avait aussi ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait la capacité à isoler les onglets quand vous faites de la navigation, les onglets les uns des autres. Ça, c'est une petite option. Alors là, je ne l'ai plus en tête, mais c'est en fait sur Firefox. C'est dans les paramétrages de Firefox, c'est juste quelque chose qui est à cocher, à passer de 0 à 1, en gros, et qui va vous faire l'isolation on va dire, de chaque onglet. Donc ça, je vous le retrouverai, je vous le mettrai, il n'y a pas de problème. Et du coup, ça évite justement cette faille, on va dire, au travers du navigateur, de pouvoir utiliser les cookies qui vont espionner et vont voir un peu qu'est-ce qui se passe dans votre navigation en général, quoi. Voilà. Autant je pense à celui-là, fiable alors. Oui, voilà. Donc oui, c'est un exemple. Je te dis après en sujet à discuter avec la communauté, mais moi ça fait partie de ceux que je pourrais en tout cas conseiller. En tout cas pour le grand public. Pour la de Jordan, pour la sécurité, une machine virtuelle est-elle utile ou aucun rapport? Oui, très clairement. Très clairement. Si tu utilises une machine virtuelle. C'est-à-dire, par exemple, tu as ton système de base sur lequel tu te connectes au jour le, on va dire, au quotidien, et que on dit tu as une machine virtuelle, donc c'est une machine dans ta machine, et que c'est tu utilises cette machine-là pour faire ta navigation, notamment ta navigation peu sécurisée, donc du style tu as des sites sur lesquels tu n'as absolument pas confiance. Oui, automatiquement, s'il y a une machine qui se fait complètement pourrir, tu t'en fiches royalement, ça va être celle-là qui va se faire pourrir, c'est-à-dire la machine virtuelle. Mais comme tu sais que tu peux la recréer et que tu sais que tu peux la régénérer assez rapidement, ben, c'est évident que côté sécurité, c'est un très très bon point. Je le confirme. Julien qui met. Alors, mais sans NoScript, qu'est-ce que ça peut faire au PC? Ben, si tu n'as pas NoScript, Automatiquement, ça veut dire que toute l'interprétation du langage JavaScript est complètement autorisée sur ton PC. Donc, pour faire simple, hein, encore une fois de plus, quand tu te payes les fameuses. C'est ça, moi, que je n'en ai pas revu. Toutes les fenêtres, par exemple, tu vas sur un site pourri qui t'envoie des pop-ups absolument dans tous les sens et que tu ne peux pas gérer. Bah, si tu n'as pas un outil comme NoScript, eh ben, tu te payes tous les pop-ups dans tous les sens, quoi. Ou alors éventuellement, tu as l'antivirus qui peut, toujours pareil, suivant les niveaux d'antivirus et en fonction des options qu'il y a, il peut proposer une fonction de, on va dire, de protection web. Mais le must, oui, c'est quand même un outil comme NoScript, parce que lui, il bloque vraiment, pour le coup, les scripts. C'est pour ça qu'il s'appelle NoScript, simplement. J'en suis sur ta deuxième question, Mathieu, 91. Je sais pas, enfin, je sais pas si tu étais en train d'échanger. Avec Balélien, ça peut aller dans le système, sauf si tu télécharges, sauf s'il y a des failles mémoire. Pour pareil, c'est une fois, en gros, c'est à l'image du Troyen. C'est une fois que tu as récupéré, en reprenant l'exemple tout à l'heure de ça y est, j'oublie son nom, CC Cleaner, que tu as téléchargé. Tu penses que c'est une version officielle. Le simple fait que tu as fait un double clic, c'est fini. Là, et la question ne se pose pas, c'est le simple fait que tu aies fait le double clic. Là, tu es mort. Question de Dioju. Sous Firefox, clic droit sur le plus pour ouvrir un nouvel onglet. C'est une question. Attends. Dioju, si tu peux me dire ce qu'il en est par rapport, si c'est une question que tu disais à 22h58, sous Firefox, clic droit sur le plus pour ouvrir un nouvel onglet. Alors, je réponds vite fait. Alors, voyons, quick, pardon. Pour des entretiens audio en distanciel, comment garder une certaine confidentialité? Alors, ça, c'est une bonne question parce que entretien audio, alors autant entretien avec le visuel, tu peux mettre un filtre sur l'écran. Alors, ça, c'est pareil, c'est un truc que je ne sais pas si vous connaissez. Ça, c'est juste pour le visuel, pour ceux qui ont des PC portables. Avec des infos justement qui pourraient être sensibles, il existe des filtres d'écran. C'est-à-dire, en gros, c'est quelque chose que vous venez coller directement sur votre écran et qui fait que il n'y a que vous, quand vous êtes en face, qui pouvez voir ce qu'il y a dessus. Si vous êtes vraiment à côté, par exemple, je sais pas, à 20 degrés, impossible de voir sur l'écran. Donc, ça, c'est pour le visuel sur les écrans. Par contre, entretien audio en distanciel, du moment que tu as si tu as un casque micro, ben automatiquement avec le casque, on n'entend pas. Par contre, on entend forcément, à moins que tu parles très très bas, on va entendre ce que tu dis. Après, ben, on en revient aussi sur ce que je te disais tout à l'heure, le lieu où tu te connectes sur Internet. Donc, si tu peux avoir un lieu isolé, ben forcément, c'est forcément le mieux. Et des fois, c'est un peu compliqué, notamment dans le monde du travail, avec la partie des open space. Ça, c'est très très compliqué. Alors, attends, Dioju, peut-être. Non, Dioju, tu voulais peut-être reformuler la question, j'ai pas compris là, tu sais, pour l'histoire des onglets dans Firefox. Ah, je pensais surtout à quel outil pour éviter que l'enregistrement traîne partout. Alors, c'est-à-dire, quand tu dis que tu fais un entretien audio en distanciel, par défaut, quand tu dialogues, je sais pas, par exemple, je dis une bêtise, que tu utilises, je sais pas, Teams, n'importe, automatiquement, le fait que tu dialogues, par défaut, c'est pas enregistré. Donc, ça veut dire, enfin, tu dialogues d'un côté comme de l'autre. Sauf si toi, de ton côté, tu fais l'action d'enregistrer avec un outil, par défaut, il n'y a rien qui est enregistré, donc ça ne laisse pas de traces. Il n'y a que celui qui éventuellement pourrait être à écouter qui va entendre. Et n'hésitez pas, même s'il y a des questions qui vous semblent on dit bêtes ou autres, n'hésitez pas, hein, c'est dans le domaine, il n'y a pas de questions bêtes. L'antivirus peut-il supprimer Tor? Bonne question. Je ne me suis jamais posé. Je pense que non, parce qu'il n'y a pas de raison. Tor, à la base, c'est ni plus ni moins qu'un navigateur. C'est pas une. C'est un lui-même. C'est pas un. Enfin, si. Si. C'est toujours pareil. Toujours la source où tu l'as récupéré, c'est pas la source officielle et qu'il est malheureusement qu'il comporte un Troyen. Oui, en effet, il va pouvoir le supprimer. Mais sinon, par défaut, c'est un logiciel comme un autre, quoi. Que penser de la sécurité de Slack? Ben écoute, Slack, comme tous les autres produits, ça marche plutôt bien. Maintenant, te dire que penser de la sécurité, c'est toujours pareil. C'est où tu l'utilises, dans quel environnement. Est-ce que tu as des gens toujours pareils, qui sont autour de toi, qui écoutent, qui surveillent? Parce que la sécurité en elle-même, si tu te fais hacker le compte, oui, forcément, toujours pareil, quelqu'un aura ton doublon et pourra, en même temps que toi t'écris, pouvoir voir exactement ce que tu fais. Donc c'est pour ça que je rebondis tout à l'heure sur l'histoire des messageries, que tout le monde utilise la messagerie classique et la messagerie en temps réel. La messagerie en temps réel, il faut faire attention justement là-dessus, parce que quelqu'un voilà, qui a hacké votre compte, ben, il a en temps réel tout ce que vous faites à côté. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de mettre justement sur ces outils-là, de mettre si possible la double authentification. Et je crois, il faudrait regarder sur Slack, que ta capacité normalement à t'avertir quand tu as quelqu'un qui prend une connexion sur un autre PC avec un autre navigateur, où tu as une alerte de sécurité, comme souvent ceux qui utilisent Gmail, etc., qui est le plus connu. Si vous faites un test, que vous vous connectez depuis, je sais pas, chez un pote, vous allez normalement voir que vous allez avoir un mail de sécurité qui va vous dire « Attention, il y a quelqu'un qui essaye de se connecter depuis un autre site. » Voilà, faites attention et surtout validez. On répond à la Brassens, on répond aux gens qui disent qu'ils n'ont rien caché, dont la protection des données n'est pas utile. Alors ça, j'ai une réponse qui est toute faite et qui est super importante, là aussi, encore une fois de plus. À la rigueur, que vous acceptiez en gros de montrer que, j'en sais rien, hein, je donne un cas terrible, vous êtes atteint d'un cancer qui malheureusement est en mauvaise phase, sur lequel vous avez ben, forcément des données qui sont hébergées soit sur Amélie, soit sur que sais-je. Déjà, s'en ficher, ben, déjà, ça va vous poser des problèmes, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux assurances, etc. Parce que si eux, ils ont accès, ben, ça veut dire que déjà, vous serez refusé, y compris aussi pour les prêts bancaires, mais vous serez aussi avec des tarifications qui seront plus élevées. Donc déjà, il y a ça à prendre en question. Mine de rien, c'est pas petit. Et il y a surtout le deuxième point, c'est que, ok, à la rigueur, vous dites, à la rigueur, ça même, je m'en fous, ok, soit. Par contre, vous exposez tous vos copains et votre famille, etc. C'est-à-dire, en mettant le côté zéro sécurité, ben, vous continuez quand même, de par votre messagerie, à dialoguer avec des gens, vous dialoguez avec des organismes, vous avez des photos sur votre PC où il y a d'autres gens autres que vous. Donc, le problème, c'est que vous mettez ces gens en porte-à-faux sans le savoir. Donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir de la protection des données et de dire on n'a rien à cacher, on a au moins quelque chose à cacher pour protéger sa famille et les amis. Voilà. Moi c'est une des réponses. Tor sur mobile, ça vaut quoi? Pff, aucune idée, pas testé. Il faudra poser la question à qui de droit, mais bon, comment dire? Le fait de dire Tor sur mobile, déjà, c'est le système, c'est le problème comment dirais-je, du zéro confiance, c'est encore une fois de plus, le Windows ou le Linux que vous avez sur la bécane, mais surtout plutôt le Linux, vous pouvez avoir confiance parce que c'est vous qui l'installez de A à Z et sur lequel vous pilotez. Mais les OS que vous avez sur le mobile, comment dirais-je, c'est déjà par eux-mêmes, c'est déjà une faille de sécurité. Donc venir mettre le Tor sur mobile, si tu veux, tu viens rajouter une couche qui va sécuriser, mais vu que tu as l'OS par défaut qui est un trou, un gruyère, non, je dirais quand même que non. Voilà. L'ours, si les smartphones ne sont pas sécurisés, pourquoi les banques nous contraignent à l'associer via leurs applis et l'utiliser pour valider les paiements? Eh bien, justement, c'est quelque chose sur lequel je peste horriblement. Je ne comprends pas. Alors, c'est parce que aujourd'hui, c'est parce que la majorité des gens, ils ont des smartphones et que c'est facile, donc, du coup, de pouvoir dire, ben, vous avez un smartphone et du coup, télécharger l'appli. Mais il faut penser qu'aussi, il y a quand même aussi plein de gens qui ne veulent pas forcément avoir de l'Internet sur leur smartphone, qui veulent juste peut-être l'utiliser en tant que simple téléphone. Donc, payer avec une application, moi personnellement, je suis particulièrement contre et je sais qu'il y a des débats actuellement sur ce sujet-là. Je suis pas fan, Clairement, très très clairement. Donc côté sécurité, bof. Loutre, une question que je viens de recevoir par MP. C'est quoi le DNS et comment le configurer? Alors, peux-tu l'expliquer avec ta douce voix? On va essayer de l'expliquer à la douce voix. Le DNS, c'est ce qui va vous permettre donc de dire, que ce soit depuis votre PC ou depuis d'ailleurs le routeur, mais on va dire surtout depuis le PC, de dire par exemple je veux me connecter à Discord ou je veux me connecter à l'Afterthinking. Vous, ce que vous faites en fait, c'est que dans la barre d'URL, vous venez taper afterthinking.net et vous validez et ça arrive directement sur le site. Si vous n'aviez pas les DNS qui existaient, vous seriez obligé de connaître, comme je disais tout à l'heure, de reprendre le bottin, c'était vraiment l'image du bottin, et de connaître tous les numéros du bottin par cœur. Donc c'est juste pas possible. Les numéros avec chiffrés. Hein. Donc le DNS, il a ce rôle-là, c'est le Domain Name Service, et qui a pour but de faire la transition et la relation entre les adresses IP et les noms de domaine. Donc c'est quelque chose en fait qui se paramètre alors soit au niveau du PC manuellement, ou soit qui se paramètre au niveau du routeur. Alors ça demande juste un peu de connaissance dans le sens où il faut que vous sachiez rentrer avec votre mot de passe et votre compte admin et le mot de passe qui est donné avec la box. Et dans les paramètres réseau, il y a quelque chose qui s'appelle paramètres DNS. Par défaut, les DNS qui sont renseignés, ce sont ceux de votre fournisseur, de votre FAI, Orange, etc. Mais vous pouvez les changer. Et en fait, ces infos-là vont être répercutées sur tous les ordinateurs de votre maison, parce qu'en général, quand vous vous connectez, vous ne cherchez pas, en fait, vous avez ce qu'on appelle des adresses IP automatiques qui viennent vous donner toutes les infos, y compris le DNS. Voilà. J'espère que ça a répondu à la question. N'hésite de pas hésiter à me dire si je n'ai pas été assez clair. Xadaz, Nota, pensez à craquer le portable. Oui. Alors, l'ours, mais du coup, la double authentification. Si on te demande ton numéro, comment savoir si ton numéro n'est pas enregistré par la même occasion? Double authentification égale donner son mobile. Oui, ça c'est forcément c'est là c'est un niveau de problématique. En effet, tu es obligé de donner forcément ton 06, ton 07. Oui, ils auront à minima, ils récupèrent en effet ton numéro. Maintenant, la banque par défaut, bon, normalement, la banque, les sites du gouvernement, etc. sont quand même des sites sécurs, minimum, donc leur donner le numéro, bon, c'est un moindre mal. Par contre, donner sur tous les sites, donc je ne sais pas, sites de commerce que vous connaissez pas trop, bon, ben, vous avez la possibilité de pas forcément à chaque fois jouer la carte du numéro de mobile, mais par contre, vous pouvez jouer la carte de l'adresse mail. Et c'est pour ça ce que je disais, c'est tout à l'heure, c'est d'avoir plusieurs adresses email pour se permettre de, on va dire, de sécuriser en fait son adresse, on va dire ses adresses sensibles. Voilà. Donc ne pas hésiter à, plutôt que le téléphone, quand c'est possible, donner l'adresse mail de secours. Voilà. Gmail, par exemple, demande un numéro pour la création d'une adresse mail. Alors, ce qui est demeurant, j'ai pas très bien compris. Oui, j'ai vu qu'avant ça le demandait, puis j'ai vu récemment, j'en avais recréé une, et c'est comme ça s'est complètement passé à l'as, ça ne me l'a pas demandé. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire de politique qui change, ils me l'ont pas demandé. Bref, Gmail, voilà, c'est l'exemple typique de si tu en as absolument besoin, bon, tu vas la donner. Mais moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est de plutôt passer après par des messageries plus sécurisées, donc toujours type Proton, Tutanota, etc., qui font du bon boulot et qui, normalement, sont censés sécuriser. Mais c'est toujours un grand débat là-dessus. Les bases de données se font toujours potentiellement hackées. Bon, il faut accepter. Le gros avantage, c'est que dans le pire absolu des cas, tu te fais avoir ton numéro de téléphone. Bon, tu sais que tu peux en changer. C'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, l'histoire de la biométrie, par contre, ça, tu ne peux pas la changer. Donc, de donner un numéro de téléphone, une adresse mail, plus facile à changer, le numéro de téléphone, ça fait tiquer, un peu plus compliqué, mais ça se gère. Ça se gère au pire. Alors, pour Mathieu, 91, alors, il y avait un truc qui était sympa. Et que maintenant, il y a plein de, malheureusement, notamment, je crois que c'était Yahoo qui le faisait pas mal. Gmail, il faudra que je regarde. Tu avais ce qu'on appelle, pour éviter d'avoir des multi-adresses, tu avais la possibilité de créer des alias. C'est-à-dire, en fait, c'était des adresses mail qui pointent finalement techniquement sur ta messagerie. Mais en gros, c'est par exemple, ta messagerie, c'est toto@gmail, enfin, je sais pas, com.com. Et tata, titi, tutu. En gros, c'est toi qui les crées, mais en gros, pointe toutes sur Toto. Et du coup, ça t'évite d'avoir justement de gérer de plein d'adresses mail. Mais ça, c'est souvent maintenant ce qui était gratuit, ben, ça devient payant. Ce qui est logique quelque part, c'est de bonne guerre de jouer là-dessus pour la sécurité. En sachant, toujours pareil, c'est en fonction des moyens de chacun, mais franchement, d'avoir ses propres domaines, sa propre messagerie, ça coûte de moins en moins cher. Et du style à. Je donne un exemple, je vais donner l'exemple, je crois, d'OVH. La toute première offre, on est à deux têtes à 12 ou 13 € par an pour avoir son propre petit domaine et sa propre messagerie. Brassens, c'est les employeurs qui t'obligent à avoir une adresse Gmail Pro créée par eux et dans lesquelles tu transmets ton numéro de téléphone et peut-être d'autres infos perso, tu as le droit de refuser. Alors oui, là franchement, ce qu'il y a de sûr, c'est que un employeur qui te dit, qui t'oblige à utiliser déjà une adresse Gmail Pro créée par eux, ben, ça veut dire que normalement, si c'est eux qui gèrent, c'est à eux de te normalement de te fournir le téléphone de, enfin, ce qui serait logique, le téléphone d'entreprise ou autre, ou alors de se démerder de leur côté à gérer cette sécurité. En aucun cas, franchement, là, c'est après on rentre dans le domaine du juridique. Pense pas trop me tromper en avançant en disant que non, t'es absolument pas obligé de donner ton numéro perso, clairement. Tu as le droit de refuser, ça me semblerait totalement logique. Faut regarder, je ne sais pas si parmi nous, ce soir, il y a certains qui sont plus dans le domaine du juridique, mais pour moi, tu as entièrement le droit de refuser. C'est à la société derrière d'assurer son service de sécurité. Et en général, juste pour rebondir là-dessus, souvent ce qui est même proposé, c'est de te proposer ce qu'on appelle une clé token. Une clé token, c'est comme une sorte de clé USB qui va te donner en fait une information qui change régulièrement, une sorte de code qui est attribué en gros à ton compte utilisateur et qui va permettre de sécuriser ton compte. Et ça évite derrière de devoir gérer des histoires avec des téléphones perso. Voilà. Mathieu, il y a un projet GitHub pour faire du stockage de fichiers avec l'utilisation de Gmail et combiné avec plusieurs providers. C'était une question ou c'était plutôt une information? Une affirmation? Pourquoi pas? Mais moi, je suis pas un grand fan de l'utilisation de Gmail. Tout ce qui est les. Je n'en ai pas parlé. Plus que ça aussi, tout ce qui est utilisation des GAFAM, donc Google, Apple, etc., Microsoft, Facebook. Moi, vous me verrez toujours dire, c'est pas parce que je suis méchant ou autre, mais parce que c'est juste la réalité, d'éviter le plus possible de stocker chez eux, clairement. Et de plutôt stocker ailleurs, que ce soit même d'autres projets libres. Et plutôt, une chose très bête, mais sur sol français. Et vraiment sur le sol français. Parce que toutes vos données, quoi qu'il arrive, sont soumises à Cloud Act ou Patriot Act, qui sont des lois américaines qui leur permettent, au travers de l'extraterritorialité, c'est dur à dire tout ça, de pouvoir avoir accès à vos données. Donc, moi, s'il y a un choix, ça sera plutôt sur territoire européen et vrai territoire européen. Idem pour le prêt d'ordinateur pro à utiliser chez soi sur ton Wi-Fi. Alors, l'ordinateur pro que tu vas venir utiliser chez toi avec le Wi-Fi, encore une fois de plus, Pour, soit à la rigueur, c'est si, on va dire, vu que c'est un ordinateur pro, normalement, il est censé être sécurisé et géré avec un certain niveau de sécurité quand même élevé par ta boîte. Donc, venir normalement le connecter à ta box, c'est pas le top, clairement, mais c'est normalement le risque est moins élevé. Après, tu as une possibilité, mais ça demande après aussi un aspect technique. C'est à la maison, tu peux avec certains routeurs, tu peux faire, on va dire, de avoir ce qu'on appelle un Wi-Fi invité. Un Wi-Fi invité, c'est une capacité à avoir en fait un autre SSID on va dire, d'accès Internet sur qui est diffusé par ta box, qui est complètement délié de ton réseau et qui permet d'avoir l'accès Internet uniquement pour lui. Et donc, du coup, ça permet d'isoler. Mais ça, c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Alors après, je te dis un ordinateur pro, bon, normalement, si on te l'impose, il n'y a jamais de façon de vraie imposition, parce que, encore une fois de plus, si on te dit que c'est obligé d'utiliser ton ordinateur pro à la maison, c'est que normalement, il y a une obligation qui est voulue par l'employeur, donc normalement, c'est à lui de mettre normalement les moyens. Et ça doit être marqué normalement dans la charte informatique que tu as signée ou que tu n'as pas signée. À surveiller, charte informatique. Mathieu. Après, tu peux crypter les données et utiliser un disque dur virtuel avec Gmail. Oui, c'est vrai, mais encore une fois de plus, franchement, quitte à essayer de faire fonctionner d'autres outils, enfin d'autres éditeurs qui sont plus bienveillants avec toi et avec le on va dire l'aspect des données, j'aurais tendance à dire toujours pareil d'utiliser les d'autres fournisseurs. Mais oui, au moins ça te permettra de sécuriser, clairement. C'est ironie, avec le sérieux des entreprises, oui. Alors ça dépend, il y en a certains qui font vraiment du vrai boulot, mais pas tous, c'est vrai. L'ours, est-ce qu'un casque audio ou un adapteur jack USB peut être vecteur d'attaque? Comme ça, pas vu, pas entendu, mais de toute façon, oui, pourquoi pas. De toute façon, dans un adaptateur, tu as de l'électronique à l'image de la clé USB. Donc, vu qu'une clé USB est clairement potentiel vecteur d'attaque, un adaptateur jack qui serait verrouillé, qui aurait été retravaillé, pourquoi pas? Oui, clairement. Bento. Les utilisateurs ont un rôle à jouer contre la cybermalveillance, les responsabiliser en disant ces rôles d'entreprise, de faire en sorte. Non, là-dessus, Bento, évidemment que l'utilisateur a un rôle à jouer. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire quand tu as ton patron qui te dit clairement, ben, en gros, je te file un ordinateur portable, à toi de lancer le VPN chez toi, parce que je te dis que moi, mon VPN, il est sécurisé. Par contre, je veux que tu utilises ta connexion. Voilà, on rentre après dans un cadre qui est de flottaison juridique. C'est pour ça que ça serait intéressant après d'avoir quelqu'un qui est du domaine pour avoir la vraie réponse là-dessus, sur l'aspect juridique. Mais non, non, évidemment que il faut responsabiliser chaque utilisateur. Et c'est pour ça que j'ai rebondi en disant la possibilité sur les bornes Wi-Fi enfin, sur les routeurs Wi-Fi de la maison, quand c'est possible, de faire ce qu'on appelle le mode invité. Et comme ça, tu es tranquille. Tu sais que tu isoles vraiment les données de la maison des données professionnelles. Nanana. Mais bonne soirée, Jordan. Au plaisir. Bentou, ben c'est le but du VPN, ne pas avoir à se soucier de la connexion utilisateur. Dans quel sens, Bento? Ouais, mais justement, si, ok, on est d'accord, tu dis que tu as le VPN, et de toute façon, c'est le cas, il faut que ce soit ça. Mais encore une fois de plus, comme on disait, si tu viens le mettre en effet sur le réseau de la perso, et que pour X raison, c'est vraiment l'ordinateur du travail qui est pourri et qui est vecteur d'attaque, ben, par défaut, tu te fais attaquer sur ton propre réseau, quoi. Donc, dans ce sens-là, c'est là où voilà, je rejoins ce que tu disais aussi tout à l'heure. Voilà, c'est à chacun de responsabiliser pour faire en sorte de faire gaffe à tous les éléments qui viennent se connecter chez nous, quoi. Et bonne soirée à vous. Et merci les gars. Ben, si jamais il n'y a plus de questions, peut-être, enfin, vous me dites, est-ce qu'il y en aurait encore éventuellement, ou sinon à ce moment, peut-être demander à l'outre de couper les bottes, peut-être?
Je pense que je vais faire ça. Dites-moi s'il y a encore quelques questions posées, sinon. Oui, une bonne conclusion.
Ah, c'est vrai, exact. La conclusion, alors les livres, les livres à conseiller. Donc, quoi si, il y en a un qui est super intéressant pour ceux que ça intéresserait, qui s'appelle le guide pratique. Enfin, pardon, c'est le hacking, le guide pratique des tests d'instruction pour ceux qui seraient intéressés, qui est très sympa. comme ça, je me la joue en mode Thinkerview. Et en conclusion, de toute façon, clairement, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre conscience que Internet, c'est malheureusement devenu un terrain de guerre, il n'y a pas d'autre terme, hein, parce qu'on le voit avec tous les chiffres qui sont véhiculés. Maintenant, c'est pas parce que c'est un terrain qui reste, on va dire, compliqué qu'il ne faut pas, on va dire, continuer à communiquer et surtout à aller de l'avant et à ne pas hésiter, voilà, comme on fait ce soir, à communiquer, se renseigner et profiter quand même de cet outil qui quand même est une sacrée avancée pour toute l'humanité. Et je rebondis juste sur le dernier point que j'avais fait justement le parallèle au début des chiffres du livre blanc, où on a quand même sur 8 milliards à deux têtes, j'ai arrondi 8 milliards d'humains, on a encore 4 milliards d'humains qui sont connectés. Donc 4 qui ne le sont pas. Donc agissons pour eux et pour leur permettre d'avoir de la connexion, d'être dans la lumière. Voilà, ce sera ma conclusion.
Eh bien, merci beaucoup pour ton LB, Cap. Je l'ai trouvé vraiment très sympathique et tu as fait en sorte qu'il puisse être accessible au plus grand nombre.
Ah, c'était le but, clairement. J'ai dû en annuler certains avec le côté pour le côté technique, mais j'essayais d'être vraiment le plus pédagogue.
J'ai comme l'impression que tu as une envie qu'il y ait d'autres livres blancs qui se déroulent dans ce domaine.
C'est un peu ça.